J'ai le grand prédicateur Moody, du 19e, 20e siècle, à cheval sur les deux siècles, je crois, raconte cette histoire. Enfin, il était dans une réunion et il a pris un verre d'eau, un verre, et il a demandé à l'auditoire, c'était des étudiants, de comment enlever l'air de ce verre. Alors, il y a eu un temps de réflexion. Ne répondez pas, de toute façon, j'entends pas vos réponses. Et puis ça risquerait de me perdre dans mon illustration. Et un des étudiants a répondu, on va pomper, avec une pompe à air, on va pomper l'air de ce verre et puis le fermer hermétiquement. Et Moody, qui s'était renseigné sur la question, a répondu, il y a un problème, c'est que ça va créer un vide dans le verre et le verre va se casser. D'autres réponses, et d'autres réponses ont eu lieu et aucune vraiment satisfaisante. Alors Moody a pris quelque chose qui est caché là, comme ça vous ne devinez pas. Comment enlever l'air de ce verre? Eh bien tout simplement en le remplissant d'eau. Et Moody utilisait cette illustration pour parler d'être rempli du Saint-Esprit. Au lieu de vouloir retirer, aspirer le péché de nos vies... C'était son application, le remplir par le Saint-Esprit. Une illustration pour parler de ce phénomène particulier dont nous avons lu un passage tout à l'heure, du remplissage du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Alors Moody utilise l'image de l'eau et du verre. Paul utilise l'image du vin, tous les deux utilisent des images de liquide ou des métaphores de liquide pour parler du Saint-Esprit, mais il faut faire attention avec les métaphores, tout ne correspond pas nécessairement. Le Saint-Esprit, il faut le dire d'emblée, n'est pas un liquide, ni même un gaz, ni un fantôme, même si en anglais on dit « the Holy Ghost », le Saint fantôme, mais c'est une personne. Et je sais qu'à chaque fois que l'on dit cela, le Saint-Esprit est une personne, il y a beaucoup d'interrogations, surtout au parcours Alpha. Vous savez que le week-end Alpha est consacré au Saint-Esprit. On passe du temps à parler du Saint-Esprit comme une personne. Mais la Bible est très claire là-dessus et on peut citer ce verset de 2 Corinthiens 13, 18. « Et nous tous, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur. » du Seigneur Jésus, c'est-à-dire de l'Esprit. L'Esprit est une personne assimilée au Seigneur Jésus. La Bible établit l'identité entre le Seigneur et l'Esprit, ce sont des personnes. Et un spécialiste de la Bible du nom de F.F. Bruce disait « Le Saint-Esprit opère comme un sujet personnel ». Ceci étant, la question demeure pourtant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en est-il? C'est le titre de la prédication, être rempli de l'Esprit. Qu'en est-il? Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit? Est-ce que c'est une deuxième expérience qui ferait suite à la première expérience de la conversion? Est-ce un niveau supplémentaire, un niveau comme dans les liquides, hein, un niveau supplémentaire de spiritualité? Est-ce qu'on peut être à moitié rempli, complètement rempli, pas du tout rempli? Que faut-il faire pour être rempli? Comment on voit qu'on est rempli? Voilà une question qu'elle est bonne. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à toutes ces questions, vous me le direz à la fin, mais je voulais quand même, en ce dimanche de Pentecôte, vous parler de ce remplissage du Saint-Esprit. Non pas pour le plaisir de discuter d'un texte un peu énigmatique, mais pour nous donner peut-être une nouvelle impulsion dans la vie de l'Esprit. Qu'en est-il? Tentative de réponse en quatre points. Et le premier point est assez évident quand on lit le texte d'Éphésiens 5, 18. Être rempli de l'Esprit, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il s'agit d'un impératif. Laissez-vous remplir par l'Esprit. Ne soyez pas, et le verset qui précède, verset 17, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ce qu'il attend de vous, deux points, soyez remplis de l'Esprit. Ou laissez-vous remplir par l'Esprit. Autrement dit, ne faites pas n'importe quoi dans la vie, ne soyez pas déraisonnable ou insensé, soyez remplis de l'Esprit. Et on pourrait parler de commandements. Dieu, dans sa parole, nous demande d'être remplis de l'Esprit. Et pour ceux pour qui ce mot commandement évoque trop de mauvais souvenirs, l'armée, l'école, la famille, on peut peut-être, au lieu de commandement, parler de, simplement de la volonté de Dieu ou du désir impérieux de Dieu de nous voir être remplis de son Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une option de la vie chrétienne. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un billet de première classe que l'on peut décider de s'offrir ou non le temps d'un voyage. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un impératif de la Bible. Alors, il y a beaucoup d'autres impératifs de la Bible. Dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même, même s'il s'agit d'amour, il s'agit d'un impératif, d'un commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ne mentez pas les uns aux autres, il s'agit d'un impératif, même négatif, c'est un impératif. Mais celui-là, soyez remplis de l'Esprit, est un impératif particulier parce qu'il est sous la forme passive. Il est au passif en grec, dans l'original, et en français aussi, soyez remplis de l'Esprit. Il n'est pas marqué, rempli, ni en grec, ni en français, remplissez-vous de l'Esprit. Mais soyez remplis de l'Esprit. Il s'agit d'être rempli ou de se laisser remplir par le Saint-Esprit, et non de se remplir soi-même du Saint-Esprit, de se gaver de Saint-Esprit. Et cette forme passive renvoie à quelque chose de très important. Elle nous renvoie tout simplement à la souveraineté de Dieu, dans son esprit. Un Dieu esprit qui est au-delà de tous nos efforts humains, qui est au-delà de tous nos sentiments humains, qui est au-delà de toutes nos émotions humaines. Dieu donne son esprit par sa grâce. Et ce n'est pas à nous de faire main basse sur l'Esprit pour nous en remplir. Il ne peut pas non plus y avoir de manipulation de l'Esprit pour s'en servir, pour sortir du lot ou de l'ordinaire. C'est l'Esprit qui vient d'en haut, comme le dit Jésus, et Yvonne l'a cité tout à l'heure, le dernier épisode de l'Évangile de Luc. Jésus commence à dire le commencement du prochain épisode, et il a dit « Restez dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Souveraineté de l'Esprit. Il vient d'en haut, quelqu'un de plus grand que nous, souverain et libre. Et quand on parle de l'Esprit, et particulièrement de la puissance, parce que l'Esprit est une puissance, il ne faut pas perdre de vue cette souveraineté de Dieu. Jamais on ne pourra dire que nous possédons le Saint-Esprit. Il faudra toujours dire que c'est le Saint-Esprit qui nous possède. De même, nous ne pouvons jamais dire que nous possédons une puissance. C'est cette puissance qui nous possède. Le chrétien n'est pas puissant par le moyen du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est puissant par le moyen du chrétien. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli d'une puissance personnelle qui nous vient d'en haut. Une autre histoire de Moody. Il était invité à une campagne d'évangélisation en Angleterre, et Moody était américain. Et donc, à cette réunion de pasteurs qui préparait, qui organisait sa venue, il y a un vieux pasteur britannique, donc on est en Angleterre, Moody n'est pas encore arrivé. Et vous savez que les Britanniques sont parfois un petit peu méprisants à l'égard des Américains, c'est un peu comme les Français à l'égard des Belges. Et il y a un vieux pasteur qui dit, un peu grincheux, qui dit « Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce monsieur Moody ? Il n'a pas fait d'études, en tout cas pas à Oxford et à Cambridge. Il n'a pas d'expérience. Mais pour qui il se prend, en fin de compte, hein, ce monsieur Moody ? Est-ce qu'il pense avoir le monopole du Saint-Esprit ? » Et un jeune pasteur, pour une fois, c'est le jeune pasteur qui est sage, il se lève et il répond « Non ». Mais c'est le Saint-Esprit qui a le monopole sur M. Moody. Et c'est une belle illustration pour Éphésiens 5, 18. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas avoir le monopole sur le Saint-Esprit, mais c'est quand le Saint-Esprit a le monopole sur ma vie et la tienne, sur nos vies. Le deuxième point est un petit peu moins évident. Mais la Bible du semeur a rendu quand même ce point évident par sa traduction « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Et ils ont ajouté, effectivement, constamment ou continuellement, ils peuvent le faire parce que l'impératif utilisé ici dans Éphésiens 5 pour se laisser vous ou soyez remplis par l'Esprit est un impératif de durée. On peut, en grec, faire des différences comme cela. Et donc, c'est la bonne traduction. Et on peut dire, et c'est le titre de ce deuxième point, qu'être rempli de l'Esprit, c'est une œuvre en continu. Ce n'est pas une deuxième expérience après la conversion, qui est le baptême du Saint-Esprit, pas une deuxième expérience après la Pentecôte pour l'Église d'Éphèse. C'est une expérience différente. C'est une œuvre en continu. Et il est intéressant de noter la différence de temps utilisée par Paul dans le premier chapitre d'Éphésiens, où il parle de la conversion des Éphésiens. Alors, est-ce que je l'ai là ? Ouais. Et voici ce qu'il dit. « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. » qui avait été promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Vous avez cru, vous avez reçu l'évangile, vous vous êtes converti, vous avez accepté la parole. Et vous avez reçu le Saint-Esprit par la foi à ce moment-là. Vous avez été même scellé, marqué de ce Saint-Esprit comme un sceau d'authenticité. Et le temps utilisé dans Éphésiens 1 pour parler de ce moment est un autre temps que celui utilisé dans Éphésiens 5. Ici, dans Éphésiens 1, quand il est signalé, quand il est fait mention de la conversion des Éphésiens, c'est un temps qui désigne une action ponctuelle, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. La conversion marquée du Saint-Esprit, une fois pour toutes, c'est fait. Alors que dans Éphésiens 5, c'est un présent duratif. Soyez continuellement en train d'être rempli par le Saint-Esprit. Vous voyez la différence ? On a donc d'une part la conversion et le Saint-Esprit qui les est donné par la foi, et puis être rempli du Saint-Esprit qui est une œuvre en continu. Et c'est important de faire la différence entre les deux, et surtout ne pas parler de la plénitude du Saint-Esprit comme une seconde expérience qui serait nécessaire aux croyants pour atteindre un niveau supérieur. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, ce n'est pas ce que dit Paul dans Éphésiens 5, 18. Il ne nous parle pas d'une expérience qui nous ferait parvenir à un niveau supérieur de spiritualité, mais d'une ouverture constante et humble à la personne du Saint-Esprit, jour après jour, dans la durée, se laisser conduire par l'Esprit, se laisser continuellement remplir par l'Esprit. Ça pose la question du comment, et c'est justement notre troisième point, comment être rempli du Saint-Esprit ou comment se laisser remplir par le Saint-Esprit. Alors, j'ai lu pas mal de choses, à ce sujet, et je dois dire que je n'étais pas très à l'aise avec ce que je lisais parce que ça ne semblait pas être dans l'esprit, justement, d'Éphésiens 5, 18. Et ce que je lisais sur ce qu'il fallait faire pour être rempli de l'Esprit était pourtant assez clair. Il fallait faire quelque chose. Il fallait prier plus pour être rempli de l'Esprit Saint. Il fallait être plus consacré. Il fallait venir à l'église, non pas seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine, comme un prédicateur ici même l'a dit il y a quelque temps. Pardon pour ça. Mais il fallait aussi se vider de ses ambitions personnelles, je l'ai lu, pour être rempli de l'Esprit. Et Moody, avec son illustration, on parlait de cela un peu. Il disait, on ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Donc, il faut vider. Et il y a certainement des choses utiles à retenir de ces pensées, mais ça me semble pourtant, ces réponses, en décalage avec la parole. Et surtout, ça donne l'impression qu'il faudrait mériter quelque chose, quelque part, ce remplissage du Saint-Esprit, qu'il faudrait aussi persuader un Dieu hésitant qui n'aurait pas envie de nous bénir par son Saint-Esprit. Qui n'aurait pas envie de déverser sur nous son esprit, qu'il faudra en quelque sorte le convaincre ou autrement dit le mériter. Jusqu'à ce que je lise un dernier commentaire samedi matin, un peu tard. Mais la personne, l'auteur, proposait avec beaucoup d'humilité une réponse à cette question du comment être rempli du Saint-Esprit. Et cette réponse a calmé mon malaise. Et il proposait de peut-être regarder dans le contexte immédiat d'Éphésiens 5, c'est-à-dire le livre, l'épître aux Éphésiens, et en particulier à Éphésiens 4, 30, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par cet esprit Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Et il proposait aussi de regarder un petit peu plus loin, mais toujours dans les épîtres de Paul, « N'éteignez pas l'Esprit. » N'éteignez pas l'esprit. Et ces deux textes, nous dit-il, pourraient nous aider à comprendre comment on peut être rempli de l'esprit. Serait-il possible qu'au lieu de persuader Dieu de nous remplir de son esprit, nous aurions simplement besoin de cesser d'empêcher l'esprit de faire l'œuvre qu'il est déjà en train d'accomplir en nous. Cesser de l'attrister. Cesser de l'éteindre. Et la Semeur traduit pas mal cette deuxième phrase de 1 Thessaloniciens 5,19 « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer ». Il s'agit d'arrêter, d'empêcher l'Esprit d'agir en nous. Et j'ai beaucoup aimé cette réponse parce qu'elle n'était pas dans le faire, mais dans le laisser faire. Et qu'elle correspondait mieux au contexte de la parole de Dieu, de toute la parole de Dieu, celui de la grâce. Pour être rempli de l'Esprit, il ne s'agirait pas de se démener pour obtenir quelque chose de Dieu, mais de simplement enlever ce qui nous empêche d'être rempli de l'Esprit. Et je mets le « simplement » entre guillemets, ou je le montre, qu'il y a des guillemets, parce qu'il n'est pas toujours simple de prendre conscience de ce qui bloque de mon côté. Et ça demande aussi l'aide du Saint-Esprit pour mettre le doigt sur le problème dans ma vie, sur ce qui bloque. Sur une relation qui n'est pas saine, une attitude qui n'est pas bonne et qui est récurrente et que je devrais confesser, ou des points de rupture dans ma vie, sur mes petites ou grosses hypocrisies pour mes petits mensonges entre amis ou entre ennemis. Pas facile de mettre le doigt dessus, de savoir. Et vous me direz que pour résoudre ces problèmes, on revient dans le faire. Mais peut-être, mais pas tout à fait. On est plus dans le défaire. Non pas faire des choses pour être rempli du Saint-Esprit, mais se défaire de certaines choses. Et ce travail d'enlèvement n'est pas de l'ordre de la performance, mais plutôt de l'ordre de l'obéissance. Être rempli de l'Esprit, c'est une question d'obéissance et d'abandon. Et avec toute l'humilité qui va avec, je t'abandonne. Tout ce pourquoi ou à quoi je m'entêtais. Abandon de notre orgueil de vouloir performer, même en matière spirituelle. Orgueil d'en faire qu'à notre tête, un entêtement à ne pas vouloir enlever ce qui pourrait nous libérer et nous ouvrir à l'action de l'Esprit. Ça me fait penser à cette parabole des terrains que l'on appelle parfois la parabole du semeur dans Matthieu 13. Vous savez, ce semeur qui sort pour semer et puis qui sème sur des terrains de différentes consistances. Il y a des terrains qui sont durs, il y a des terrains qui sont pleins de pierres, il y a des terrains qui sont pleins de ronces, et puis il y a un terrain fertile. Et ce qui est clair dans cette parabole, c'est que Dieu veut faire pousser la semence de la vie partout. Mais c'est à nous de faire de notre sol un terrain fertile. Et si on a des pierres sur notre terrain ou dans notre jardin, il s'agit pour nous de les enlever. Comme dit le prophète Osée, défrichez-vous un champ nouveau, enlevez les pierres. Enlevez tout ce qui nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit, parce que le Seigneur a un projet pour nous. Débroussaillez votre terrain pour recevoir la semence et qu'elle puisse prendre racine en nous. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit, c'est le premier point. Notre rôle n'est pas de le mériter, notre rôle c'est d'enlever par sa grâce les pierres de notre jardin et de nous ouvrir à son action dans nos vies. On parle souvent de posture aujourd'hui, hein, posture. Pour être rempli d'Esprit Saint, non pas cette posture, non pas non plus cette posture, mais celle-ci, ou celle à genoux. Quatrièmement, être rempli de l'Esprit provoque des changements dans la vie et dans les relations. Et c'est le verset qui suit qui nous parle donc de ces effets. On est dans les effets maintenant. En quatre verbes qui sont tous conjugués de la même façon. Encore un petit peu de grammaire, c'est la dernière. Tous des quatre participes qui dépendent du verbe principal. Soyez remplis de l'Esprit. Avec, premièrement, ainsi, soyez remplis de l'Esprit ou laissez-vous remplir de l'Esprit. Ainsi. Donc c'est une conséquence, c'est un effet. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant des cantiques inspirés par l'Esprit. Ainsi, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur. Et puis, pour toute chose et en tout moment, vous remercierez Dieu, le Père, la reconnaissance. Et puis, dernièrement, quatrièmement, quatrième verbe, vous vous soumettrez les uns aux autres. Voilà la description des effets du remplissage de la plénitude de l'Esprit sur un homme ou une femme qui s'y est ouvert. Et c'est un peu inattendu comme effet, mais c'est ce qui est écrit. Et il y a plusieurs choses à dire là-dessus, parce que c'est inattendu parce qu'on y parle de chant. On y parle de reconnaissance. On s'attendait peut-être à autre chose. Il y a simplement quelques points encore à dire sur ces quatre verbes. Premièrement, que cette liste n'est peut-être pas exhaustive non plus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres effets du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Deuxièmement, Paul écrit cette liste de verbes par rapport à la métaphore aussi qu'il a utilisée. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et s'il a utilisé cette métaphore du vin, c'est aussi parce qu'au 1er siècle, il y a un culte qui est très en vogue. Ce n'est pas le culte protestant, c'est le culte à Dionysos ou à Bacchus, le dieu du vin et de la fertilité. On boit et on reboit jusqu'à l'ivresse, jusqu'à la perte de contrôle pour réjouir Dionysos à l'époque. On sait aussi qu'à l'époque, les esclaves, pendant les temps de repos, n'avaient qu'une seule activité, la beuverie organisée. Et on sait que beaucoup d'esclaves sont devenus chrétiens. Et donc Paul écrit que le chrétien rempli de l'Esprit ne va pas faire un culte à Bacchus dans l'ivresse de l'alcool, mais il va se rencontrer avec ses frères et ses sœurs pour chanter et pour s'encourager par ses chants. Et là aussi, on voit toute la différence entre l'enivrement du vin et la plénitude de l'Esprit. Celui qui s'enivre va vers la destruction de lui-même et des relations qu'il peut avoir avec les autres. Il est dit dans Éphésiens 5, 18, à une vie, mais cela conduirait à une vie de désordre ou de destruction personnelle. Alors que celui qui est rempli de l'Esprit va être en bénédiction pour lui-même et pour les autres. Il est une bénédiction pour les autres par les chants, par les cantiques, chantés sous l'inspiration de l'Esprit. Il fait du bien à ceux qui l'entourent, et j'ajoute, même s'ils ne chantent pas tout à fait juste. Et on remarque, et c'est intéressant dans cette liste, que deux des effets du Saint-Esprit sont en rapport avec la relation avec Dieu, la louange et la reconnaissance envers Dieu que l'on peut vraiment vivre que dans l'Esprit, n'est-ce pas ? On l'a senti tout à l'heure aussi, on a eu un bon moment de louange. Il faut l'Esprit pour le vivre vraiment authentiquement, et la reconnaissance également. Et les deux autres sont en rapport avec les relations que l'on peut avoir les uns avec les autres. Encouragez-vous mutuellement, soumettez-vous les uns aux autres. Le premier, l'encouragement. Littéralement, vous vous encouragerez les uns les autres, vous vous parlerez les uns aux autres. Vous vous parlerez. Et quelqu'un disait, il est significatif que la première marque de la plénitude du Saint-Esprit soit le fait de se parler les uns aux autres. Se parler, vivre la communication. Et on fait un pas plus loin, vivre la communion. la communion spirituelle, la communion fraternelle. Et la seconde qui concerne les relations humaines, c'est la soumission réciproque. Alors vous l'avez lu et peut-être vos poils de la nuque se sont hérissés. Soumission ! Comme mes poils de la nuque s'hérissent quand je pense à la soumission réciproque dans mon mariage. Et je sais que le mot soumission est sujet à beaucoup d'interprétations selon le vécu de chacun. Et il y a des vécus lourds par rapport à cette question. Mais quand la Bible parle de soumission, il n'est jamais question de dépersonnalisation, de serpillarisation, devenir une serpillière, d'entrer dans une sorte de soumission aveugle, mais elle nous invite à ne pas toujours vouloir s'imposer, à laisser passer l'autre, à considérer l'autre avec beaucoup de respect et de douceur. Et là aussi, ça ne peut se faire que dans l'esprit, que lorsque l'on est rempli de l'esprit. En tout cas, être rempli de Saint-Esprit provoque des changements dans les relations, un changement qui va vers le rapprochement et non à la destruction. Les relations sont le domaine central de l'action de l'esprit. Et je continue, et je termine presque avec une citation de John Stott, qui est le pape du monde évangélique, britannique lui aussi. Et comme tous les papes, il est infaillible. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs maintenant. Bon, il y en a pas plusieurs. Voilà ce qu'il dit John Stott. Le Saint-Esprit nous place dans une relation normale avec Dieu et avec les autres. C'est dans ses qualités et ses activités spirituelles, et non pas dans un phénomène surnaturel, qu'il nous faut chercher les signes de la plénitude de l'Esprit. J'aimerais terminer sur une parole de Jésus qui m'a sauté à la figure pendant la préparation. C'est quand Jésus parle de savoir demander. On a souvent des problèmes pour demander, et peut-être encore plus dans le domaine des choses spirituelles, quand il s'agit de demander des choses spirituelles. Et quand il s'agit de demander d'être rempli de l'Esprit, on a peut-être peur du résultat. C'est peut-être un problème. On a peur d'être un petit peu trop transformé et de devenir soit un illuminé, soit un fanatique. On a peur qu'une fois rempli du Saint-Esprit, qu'on doive chanter dans la chorale. On a peur de demander tout simplement parce qu'on a des doutes sur soi. On a peut-être des doutes sur sa dignité. On n'a pas de doute sur notre indignité, mais certainement sur notre dignité. Mais Jésus encourage pourtant ses disciples à demander. Et dans Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, on connaît cette phrase, mais voilà ce qu'il dit. « Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez. » Et comme les disciples n'ont pas l'air d'être convaincus, il ajoute « Cherchez et vous trouverez. » Et comme ils sont encore assez sceptiques, Jésus rajoute « Frappez et l'on vous ouvrira ». Et pour être sûr qu'ils ont bien compris, il rajoute une quatrième fois « Car celui qui demande reçoit ». Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute une cinquième fois « Celui qui cherche trouve ». Et pour conclure, il dit pour la sixième fois la même chose « Et l'on ouvre à celui qui frappe ». Six fois. Incroyable de voir que Jésus répète six fois la même chose avec des variables, mais une invariable. Demandez. Et il continue en parlant des pères de famille. Vous savez, vous qui êtes des pères de famille mauvais, c'est ce que Jésus dit. Merci, Jésus. Vous êtes de toute façon mauvais. Et si votre enfant vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Et s'il vous demande autre chose, vous n'allez pas lui jeter une pierre. Et Jésus rajoute, et à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Vous avez noté, il s'agit de l'Esprit Saint, une demande du Saint-Esprit. Alors on est dans l'Évangile, on n'est pas dans les épîtres de Paul, mais Paul serait d'accord avec son Seigneur. Quand on demande d'être rempli du Saint-Esprit, Dieu répond. Parce que c'est son désir, parce qu'il veut opérer cette action en continu dans notre vie, parce qu'il veut nous aider à nous abandonner en lui, parce qu'il veut provoquer des changements dans notre vie et nos relations. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel, soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Le voulons-nous ?